Moi, j'ai commencé à travailler sur les foires de l'Ancien Régime donc, au début de ma première année de master. Ça fait donc un an déjà. Et je me suis spécialisée dans la foire de Guibré, qui est une foire qui se tenait à Falaise. Donc Falaise qui est à une trentaine de kilomètres de Caen. Et la route qui relie Caen et Falaise date de 1740, donc c'est une carte de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc Guibré, ou la Grande Guibré, on l'appelle comme on veut, est une foire de renommée internationale qui est apparue au 8e siècle, selon une légende assez obscure d'ailleurs, et qui a disparu donc, dans les années 1960. Elle se tenait tous les 15 août durant deux semaines autour de l'église Notre-Dame de Guibré. Plus précisément, c'est une foire qui attire à l'époque moderne des marchands itinérants qui viennent y écouler les invendus de la foire passée et se réapprovisionner pour la foire prochaine. On y trouve aussi des marchands qui vont venir acheter des produits à la foire de Guibré pour ensuite les revendre au détail dans leur propre boutique. Parce qu'il faut savoir que Guibré, c'est une foire de gros par opposition à la foire de détail. Du coup, on va trouver plutôt des professionnels de la vente. Pour apporter une petite précision, il faut savoir que la foire de Guibré, c'est aussi une foire de change. Et c'est ce qui va lui donner sa renommée internationale, puisque des marchands banquiers vont faire le déplacement. Là où le sujet rejoint la thématique du séminaire Ville et Sciences Sociales, c'est lorsque l'on aborde la question de l'accueil des marchands, de cette population flottante finalement, et de l'aménagement des espaces publics au sein de la ville de Falaise. Donc quand on consulte les archives, on se rend bien compte par le volume des correspondances et des règlements de police que les préoccupations majeures, que ce sont des questions qui préoccupent largement les autorités municipales. Donc en fait, les questions, c'est comment gérer au mieux cet afflux massif de marchands et de visiteurs qui viennent à Falaise pour le commerce, qu'il va falloir loger, nourrir, mais aussi protéger, donc protéger à la fois les marchandises et la personne. Pour vous rendre compte de toutes ces questions, je vous propose de suivre l'intervention en suivant trois grandes thématiques, enfin trois grandes idées. J'ai pensé qu'il serait mieux dans un premier temps d'aborder la question du plan de la foire, où se font normalement, je le mets entre guillemets, les transactions légales. Et c'est ce qui va me prendre le plus de temps. Ensuite, j'aimerais évoquer avec vous la question des hébergements, celle aussi de la pratique hôtelière, mais aussi les divertissements pour finir en évoquant donc, les préoccupations sanitaires, donc la question de la salubrité. Donc les espaces de vente, à savoir les loges, les magasins et les boutiques aussi, sont situés sur ce que l'on appelle le plan de la foire. Quelquefois, on peut trouver la dénomination d'enclos de la foire. C'est un espace qui fait partie intégrante du domaine royal, donc c'est ce qui lui permet de bénéficier de privilèges accordés par le souverain, c'est-à-dire des exemptions de taxes sur les marchandises, mais aussi le droit d'utiliser des monnaies étrangères, ça arrive. Et donc ces privilèges prennent la forme de franchises, d'où le terme que l'on rencontre parfois de foire franche, foire franche pour Guibré, mais aussi pour d'autres foires dans le royaume de France. J'ai utilisé pour vous illustrer un petit peu mes propos une gravure qui date de 1658, qui a été réalisée par François Chevel et Nicolas Cochin. C'est une gravure qui représente le plan de la foire de Guibré au milieu du XVIIe siècle. Il y a bien sûr une part de liberté qui a été prise dans sa représentation, mais je pense que c'est relativement fidèle. De toute façon, si vous allez vous promener à Falaise, vous retrouvez les noms de rues, puisqu'ils ont été conservés dans la plupart des cas. Ce que l'on appelle le plan de la foire, c'est cet espace qui est agencé en plusieurs rues qui débutent au pied de l'église Notre-Dame de Guibré, donc qui est en hausse à gauche de la gravure. Les deux rues principales sont la rue de Rugle, anciennement la rue de Caen, spécialisée dans les draps et les étoffes. Sur la droite, vous avez la rue de Rugle est sur la droite et la rue du Pavillon est sur la gauche. C'est là où exposaient les marchands de nouveautés et les orfèvres les plus riches. Sinon, nous avons des rues secondaires qui tirent leur nom de leur spécialisation, donc la rue de la Quincaillerie, la rue de la Vieille Draperie, des rues qui portent aussi des noms de villes en écho aux origines géographiques des marchands. Donc on va trouver la rue de Paris, la rue de la Picardie, la rue de Rouen, la rue de Tours, la rue d'Alençon. Dans le tout fond, on va trouver la rue aux Anglais. Des marchands exposent leurs marchandises dans des loges qu'ils ont louées au préalable à des grands propriétaires fonciers, qui ont tendance à faire gonfler les prix de la location au moment de la foire. Pour vous donner un ordre d'idée, au début du XVIIe siècle, une loge se vendait entre 12 et 15 livres. En 1730, on passe facilement à 30, 40 livres, voire 60 livres pour une même loge. Donc les marchands avaient du mal à faire le déplacement pour ça. Et du coup, les autorités sont totalement conscientes que de telles pratiques compromettaient l'attractivité de la foire. Seulement, les négociations avec les propriétaires des loges étaient difficiles. Ils avaient du mal à faire un effort. Je vous laisse lire la citation. J'ai retranscrit ici un extrait d'un document conservé aux archives départementales du Calvados, qui n'est pas daté, mais que j'estime entre 1693 et 1695, et qui a été rédigé par les habitants de Falaise. Donc je l'ai choisi parce qu'il donne une courte description de l'aspect de ces bâtiments. Ce document donc, a été rédigé par les propriétaires des maisons de Falaise parce qu'il interdit, pour se plaindre de l'interdiction qui a été faite aux marchands de vendre à l'extérieur du plan de la foire. On sait qu'avant 1693, les marchands avaient l'habitude de s'installer dans les maisons des Falaisiens parce que c'était plus abordable que de louer une loge. Sauf que du coup, ça désertait le plan de la foire et du coup, les propriétaires des loges se sont plaints à leur tour. À la lecture des archives, on comprend que cette décision d'interdire le commerce dans les maisons avait été motivée par la nécessité de rendre transparent le commerce aux yeux du public, de lutter, comme on dit dans le document, si on poursuit la lecture, contre la contrebande, pour lutter contre la fraude, mais aussi pour assurer la sécurité des inspecteurs des manufactures et des maîtres de corporation qui étaient chargés de faire les visites des étals. Donc on décrit des loges sur étage. Je vous ai mis une illustration. On peut encore voir deux loges aujourd'hui dans le quartier de Guibray. J'ai essayé de les resituer par rapport au plan. Donc, elle est dans la rue aux Anglais. On voit que ce sont des loges qui sont sur étage, comme ça a été décrit dans la citation d'avant. Donc, au rez-de-chaussée, vous avez donc les espaces de vente où on exposait. Et à l'étage, on a plusieurs hypothèses. Ça pouvait être une chambre, ça pouvait être un espace de stockage, ça pouvait être juste un grenier à sel aussi, ça a pu être converti. Et aujourd'hui, je crois que ce sont des logements, enfin, je ne suis pas certaine. Et donc du coup, la description des loges qui nous parviennent dans les archives, nous parviennent lorsque les marchands se plaignent qu'elles ont été endommagées par un quelconque voisin, ça arrive que par mégarde, vu que beaucoup étaient en bois, elles soient détruites. Mais on a aussi quelques plaintes parce que donc là, c'est une autre citation. On a aussi quelques plaintes parce qu'elles n'étaient pas adaptées aux marchandises que l'on y vendait. Il y avait parfois un manque de place, un manque de lumière, ça arrivait. Donc ici, c'est un document qui date du 7 août 1731 qui rend compte de ces difficultés. Il a été écrit par le sieur de La Fresnaye, donc le procureur du roi, qui demandait à l'intendant, l'allemand de Lévignan, de se rendre plus tôt que prévu à Falaise afin de régler les litiges avec les marchands. Donc on peut la lire. « Monsieur, je suis ravi que vous avanciez votre voyage de Guibray et que vous arriviez ici le 14. Si vous vouliez bien arriver le 13, ce sera encore mieux, parce que je prévois qu'il y aura beaucoup de tracasseries dans les loges de Guibray, les marchands prétendant qu'on ne les forcera pas, comme l'année dernière, de prendre des endroits qui peuvent contenir leurs marchandises pour souffrir des pertes aussi considérables que celles auxquelles ils furent exposés par force majeure. » Donc ici, voilà, c'est le genre de plainte que les syndics des marchands adressent aux juges de la foire pour faire part de leurs difficultés. Je rajouterai qu'il existe aussi sur le plan de la foire des espaces spécialement aménagés pour les marchandises de gros volume. Donc on a des fosses aux draps, des fosses aux toiles. Et on a des places aussi, donc la place aux fruits par exemple. Je serai plus brève pour les deux autres points. Je voudrais maintenant arriver à ma deuxième partie, qui concerne les infrastructures d'accueil et les lieux de sociabilité, donc à savoir les buvettes, les théâtres de rue et les spectacles, ainsi que les auberges, que l'on appelle aussi hôtelleries, qui sont nombreux à la foire de Guibray. De haut en bas, sur le détail, on peut apercevoir les hôtelleries. Dans l'ordre, ça donne l'Aigle d'Or, ensuite la Tête Noire, le Sermon, la Belle Étoile, le Gaillard Bois, qui sont des hôtelleries qui sont attestées dans les sources. On peut aussi trouver d'autres hôtelleries sur le plan, donc je ne les ai pas toutes mises, mais on a aussi le Cheval Blanc, une qui est encore visible aujourd'hui, qui s'appelle La Romaine, qui n'est pas très loin de l'église Notre-Dame de Guibray, qui a été reconvertie en logement, elle c'est certain. On comptait, selon Amédée Myriel, qui est un érudit local, on comptait approximativement 84 hôtelleries au XVIIIe siècle, où l'on pouvait se restaurer, où l'on pouvait se loger, et qui mettaient à disposition des écuries. Donc ce sont des chiffres qui sont tirés de son Histoire de Falaise, publiée en 1889. Certains falaisiens se sont en fait détournés du travail de la terre pour se convertir dans l'hôtellerie et ouvrir donc les établissements pendant le temps de la foire. Dans tous les cas, ce que l'on sait, c'est que les marchands étaient logés à plusieurs. Donc je vous ai mis une autre citation. Bon, elle relève plus de l'anecdote, j'aurais pu la couper un peu plus tôt, mais en fait, ça rapporte l'histoire du sieur Dupré Leblanc qui logeait avec quatre autres de ses compagnons dans une chambre à l'hôtel de la Tour Grise, et qui, en fait, était pris de somnambulisme et qui, pendant son état d'éveil, semi-éveil, a tenté d'étrangler son voisin de chambre. Donc, en fait, au-delà de l'anecdote, c'est plus pour vous montrer qu'il logeait à trois ou quatre dans une même chambre. Donc on peut la lire. Ensuite, le sieur Dupré Leblanc fut logé en l'auberge du sieur Baudouin, où pend pour enseigne la Tour Grise. Donc ça, c'est le nom de l'hôtellerie. L'avant-dernière nuit, on le fit coucher dans une chambre où il y avait quatre lits, dans trois desquels étaient couchés trois autres particuliers. Sa maladie ordinaire, comme il nous l'a observé, occasionna de se lever en dormant et après avoir ambulé, il se trouva auprès du lit d'un sieur Fournier, garde du haras. Ne sachant ce qu'il faisait, sans doute qu'il voulut se coucher dans le lit de ce particulier, et le faisant sans doute encore qu'il mit les mains sur le visage et la gorge du dit particulier, ce qu'il ne sait que pour l'avoir entendu rapporté par le dit sieur Fournier, qui se plaignit hautement contre l'erreur du suppliant, ce qui occasionna du bruit dans la dite auberge, voilà, de manière que les cavaliers de la maréchaussée, faisant patrouille, l'arrêta et le constitua prisonnier. Bon, pour l'anecdote, il est resté que trois jours en prison, puisqu'on l'a reconnu malade, donc voilà, il est sorti. Donc, quand même... Donc on voit bien ici, voilà, donc, au-delà de l'anecdote, que le nombre important des marchands et le manque de place nécessitaient une grande proximité pendant les deux semaines que durait la foire. La conséquence à tout cela, ce sont bien sûr les altercations, les cas de violence, surtout quand l'alcool était de la partie. Et voilà, donc dans le cas où les finances et où la place manquaient, la seconde possibilité aussi, c'était de séjourner chez l'habitant, ou alors de s'éloigner de beaucoup du lieu de la foire, ça arrivait. Il faut aussi se rendre compte que la cherté des loges, dont je vous ai un petit peu parlé, conduisait les marchands à installer leur commerce dans ces auberges, mais c'était totalement interdit puisque ça ne faisait pas partie du plan de la foire. Donc on commerçait dans les chambres. Et voilà, c'était un réel problème puisque ce commerce, du coup, était invisible pour les autorités chargées de contrôler la conformité des produits, donc à savoir les inspecteurs des manufactures et les gardes jurés des corporations. C'est aussi un lieu propice au recel et à la contrebande. Et la question, du coup, s'est posée d'intégrer, dans les années 1730, d'intégrer ces auberges dans le plan de la foire. Toutefois, cela revenait à prendre le risque de voir déserter des loges qui étaient trop chères et donc du coup de les rendre vacantes au détriment des propriétaires, donc qui ont refusé. À côté de ces établissements, donc vous les voyez un petit peu sur la gravure, vous avez des buvettes. Ces buvettes étaient tenues par des vendeurs de boissons, pour reprendre l'expression du XVIIIe siècle. Et selon Amédée Mériel, ces vendeurs de boissons, c'était des gens sans aveu, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas de famille connue ou qui n'avaient pas de domicile reconnu non plus. Ce sont des établissements qui font l'objet d'une surveillance accrue de la part des vagabonds, qui cherchaient donc de la part, pardon, des autorités, qui cherchaient à limiter leur capacité d'accueil. Et un autre lieu de réunion aussi des marchands, en dehors de l'activité commerciale, ce sont les théâtres et les spectacles de rue qui étaient aussi nombreux à la foire de Guibray, et qui était expressément autorisé par le lieutenant de police, auquel il revenait de contrôler la moralité de la démonstration. Donc je vais vous laisser lire la citation. J'ai pris ici l'exemple du sieur Roch Langlois, qui a présenté pour la foire de 1736 un spectacle de marionnettes, des tours de gobelets et donc des cartes, et au préalable, il avait fait la demande auprès du juge du pavillon pour être autorisé à faire ces démonstrations. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que l'autorisation a été donnée donc, par le juge de la foire, M. de Sainte-Marie, après qu'il ait lui-même reçu l'aval du procureur du roi, donc André de la Fresnaye. Donc on va pouvoir voir aussi à Guibray des singes, on va pouvoir voir des peaux de crocodile, on va pouvoir voir un lion des mers, un sanglier des Indes, un oiseau de la vérité à portée des îles de la Trinité. Et voilà. Et donc, pour ma troisième partie, je voudrais en venir sur, aux mesures destinées à assainir le plan de la foire et à assurer la sécurité des biens et des personnes, puisqu'il en va de la réputation de la foire et de son succès. Et on se rend bien compte, encore une fois, par la fréquentation importante du lieu, que les dangers sont largement exacerbés. Il existe une juridiction appelée la Sénéchaussée royale des foires et privilèges de Guibray, qui s'avère être une juridiction locale et temporaire, à la tête de laquelle donc, on trouve le lieutenant de police dont je vous ai un petit peu parlé. Cette justice et l'administration siègent à la maison du pavillon, donc là que vous voyez sur la droite de l'église Notre-Dame de Guibray. En réalité, elle a fait l'objet de plusieurs déplacements. Ici, elle était auprès de l'église en 1658, mais elle a été déplacée par la suite. Et donc, c'est de cette administration que nous viennent les règlements de police sur lesquels je vais m'appuyer. Le premier danger, c'est le risque de propagation des maladies par les marchands et par les marchandises. Donc, on cherche à améliorer la qualité de l'air en créant des aménagements pour la commodité des marchands, tels que, par exemple, la création toute simple de latrines sur le plan de la foire ou alors de fontaines à eau. Et surtout, on va sanctionner les comportements dits négligents. Donc, à titre d'exemple, je n'ai pas dépouillé le carton, donc je n'ai pas de citation, mais je sais que le couple Morel et leur servante ont été condamnés à payer 10 soldes d'amende parce qu'ils ont jeté un pot de chambre par la fenêtre. Donc voilà, c'était le genre de choses interdites. Et voilà, parmi d'autres mesures préventives, il y avait aussi l'obligation faite aux marchands de se munir de certificats de santé, et surtout lorsqu'ils venaient de régions qui étaient touchées par les épidémies. Un autre danger qui plane lui aussi au-dessus de la foire et qui est donc la source d'une inquiétude permanente, c'est le risque d'incendie qui serait absolument dévastateur au vu de la proximité des loges et des marchandises. Donc selon René de Brébisson, qui est un érudit local, on a procédé en 1714 à l'achat d'une citerne et de pompes à incendie également. Et puis encore une fois, donc on proscrit les attitudes négligentes. En 1734, par exemple, on interdit à toute personne, quelle que soit sa condition, de fumer dans les rues de la foire, de fumer dans les magasins, etc. Donc sous peine de prison et de 10 livres d'amende, donc c'était sévèrement sanctionné. Cette interdiction a ensuite été étendue donc, aux écuries et aux greniers. Et pour être un peu plus complet, on sait aussi qu'il était interdit de pénétrer dans des zones contenant de la paille ou du foin sans lanterne close. C'est-à-dire qu'on pouvait être sanctionné, mais de toute façon, ça va de soi si on n'entrait pas avec une lanterne close. Et enfin, je terminerai donc sur ce point, c'est la question de la circulation dans les rues du plan de la foire. Il faut savoir qu'à l'entrée du plan de la foire, il y a des barrières que l'on notait tous les soirs à 5 heures, qui interdisaient aux voitures attelées et donc aux charrettes de passer pendant que les piétons se promenaient dans le plan, puisque voilà, une présence considérable de marchands à pied représentait un trop grand danger. Donc, vous avez ici un extrait d'une plainte en date du 15 août 1742 qui a été déposée par les sieurs d'Orlais et Carouge et d'autres marchands de Rouen contre Jean Laramé, qui est un voiturier et un roulier, et qui se plaignent que celui-ci soit passé donc, en charrette dans la rue du Pavillon et détruit leurs étals. Donc, ça relève encore de l'anecdote, mais c'est assez amusant. Donc, on va le lire. Au préjudice et dépenses faites par les 10 sieurs d'Orlais et Carouge, le sieur Laramé a fait passer sa charrette sur laquelle il y a une pente, par-dessous les toits, les tentes qui sont vendues le long des rues du Pot d'Étain et du Pavillon, lesquelles il aura été toutes abattues, rompues les cordes, ficelles, déchirées les toiles et autres fractions, ce qui leur causait un tort considérable et préjudice au public qui ne pourra plus passer par dans la rue du Pavillon. Donc voilà, c'est encore une fois une anecdote, mais elle est assez amusante. Et il semblerait en tout cas que le marchand Laramé ait dû prendre à sa charge les frais de réparation. Donc, pour conclure, je vous ai mis quelques livres, mais ce n'est pas du tout exhaustif. J'en arrive donc à la conclusion. Toutes les informations dont je vous ai fait part, et elles sont très loin d'être complètes, sont tirées des archives judiciaires et des archives administratives que l'on retrouve aux archives départementales d'Alençon et du Calvados. Voilà, donc j'ai essayé de vous démontrer que la foire de Guibray impactait directement la ville de Falaise. Elle occupe pleinement les espaces privés et les espaces publics de la ville, mais en un impact aussi l'économie. Et il faut savoir que grâce à la foire de Guibray, la ville est sortie de son isolement, puisqu'il a fallu créer tout un réseau pour pouvoir la rendre accessible aux marchands qui venaient des régions étrangères. Et donc voilà, ça fera l'objet de ma deuxième année de master. Du coup, je vous en dirai plus plus tard. Et je vous remercie.